Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bâtiments existants comme antidote à la crise du logement. Un texte de Marco Fortier, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir. En pleine crise du logement, le parc immobilier du Québec manque d'entretien et tombe sous le pic des démolisseurs avec une facilité déconcertante, souligne un nouvel essai qui paraît ces jours-ci. Les auteurs sonnent l'alarme sur l'importance de protéger les bâtiments existants, non seulement pour loger les gens, mais aussi pour sauvegarder le patrimoine, prendre soin de la planète et renforcer la vie de quartier. Au Québec, on a le réflexe de négliger l'entretien des immeubles et de les laisser à l'abandon en attendant de les démolir, sous prétexte qu'ils sont devenus irrécupérables. Résultat, des centaines de bâtiments restent inoccupés à Montréal et ailleurs, parfois à côté de campements de sans-abri. Les normes de sécurité rigides, pensées en fonction des nouvelles constructions, compliquent pourtant la conversion en logements d'église, d'espaces de bureaux et d'autres types de bâtiments désaffectés. Tout cela pendant que les prix des logements explosent en raison de la pénurie d'habitations. Notre cadre législatif et réglementaire a été pensé systématiquement pour le neuf. On doit changer cette tendance, fait valoir Léa Mété, coordonnatrice de l'ouvrage « Valoriser les bâtiments existants, un levier pour le développement durable », publié aux éditions du Septentrion. Ce livre extrêmement bien documenté, écrit avec les architectes André Bourassa et Richard Trempe, est à la fois un essai et un guide pratique visant à aider les propriétaires à bichonner leur maison. Il n'y a pratiquement que des avantages, y compris économiques, à sauvegarder les bâtiments existants, concluent les auteurs. La requalification d'un immeuble existant coûte entre 10 % et 22 % moins cher que de le démolir et de le reconstruire à neuf. Et les effets sur l'environnement sont infiniment moindres. L'habitude de détruire. Le parc de logements du Québec est un des plus anciens du Canada. En 2017, 71 % des habitations dataient d'avant 1996 et 24 % d'avant 1961. Les bâtiments traditionnels, construits avant la deuxième moitié du siècle dernier, étaient conçus pour durer 120 ans sans travaux majeurs. Ceux qui ont été érigés il y a 50 ans ont une durée de vie utile deux fois plus courte et nécessitent aujourd'hui des rénovations importantes. Or, lorsqu'un bâtiment ne répond plus aux exigences de son utilisation, on préférera le détruire pour en construire un nouveau plutôt que de s'infliger les nombreuses contraintes relatives à la conversion, observe l'ingénieur belge Justine Bonhomme dans son mémoire de 2016 sur les églises du Québec. Un parcours du combattant guette les propriétaires qui cherchent à convertir une église ou un immeuble commercial en logement, souligne Léa Mété. La présence de bois dans une église, par exemple, crée un risque d'incendie. Les volumes intérieurs d'un tel bâtiment représentent un casse-tête pour l'aménagement de fenêtres ou de sorties de secours. Dans d'autres types d'immeubles, c'est la largeur des corridors ou des escaliers qui pose problème. Au centre-ville de Montréal, 18 % de la superficie des tours de bureaux désertées en raison du télétravail reste ainsi inoccupée. Des dizaines d'églises et de résidences pour personnes âgées sont aussi abandonnées à cause de normes de sécurité coulées dans le béton, comme l'obligation extrêmement coûteuse d'installer des gicleurs. La partie 10 du Code du bâtiment permet une certaine souplesse pour la requalification d'immeubles, mais les obstacles bureaucratiques grugent beaucoup de temps et découragent les promoteurs, explique l'autrice, qui était jusqu'à récemment directrice générale de l'organisme Éco-Bâtiment situé à Québec. Nécessaire compromis. Compte tenu de la crise de l'itinérance et du logement, elle appelle à un changement de paradigme en matière de changement d'usage de bâtiments existants. Il faut tenir compte des humains dans notre analyse de risque, pas seulement du bâtiment, fait valoir Léa Mété. Oui, on doit être capable de sortir d'un immeuble en feu. mais il y a aussi de très grands risques à avoir des familles incapables de se loger convenablement. Le risque d'avoir une population de sans-abri dans une ville où il y a du pied carré de libre, c'est un risque inhumain, inacceptable. Sur cette base-là, il y a des compromis à faire, ajoute-t-elle. La spécialiste en habitation n'est pas la seule à faire ce constat. Le Devoir a rapporté récemment le même cri du cœur d'organismes communautaires et d'experts en urbanisme en faveur d'assouplissement pour permettre l'occupation transitoire, décrite comme une forme de squat légal, d'immeubles inoccupés. Épidémie de démolition. Des États, notamment le Royaume-Uni et le New Jersey, ont mis en place des solutions pour faciliter le changement d'usage de bâtiments désaffectés. En France, la loi Climat et résilience indique que les bâtiments construits à partir de 2023 doivent être conçus en prévision d'un éventuel changement d'usage résidentiel. À défaut d'un geste fort de l'État, des centaines d'immeubles susceptibles de loger des gens resteront désaffectés et finalement démolis. Le président de l'Ordre des architectes du Québec, Pierre Corriveau, a résumé le défi. À l'heure actuelle, tout peut être démoli, sauf ce qui doit être conservé. Il propose d'inverser nos processus décisionnels pour considérer plutôt que tout doit être conservé, sauf ce qui peut être démoli, souligne Léa Mété. L'épidémie de démolition d'immeubles existants est nuisible à tous les égards. Des bâtiments témoins de l'histoire québécoise sont réduits en poussière. Ces immeubles anciens, souvent situés dans des quartiers centraux, contribuent pourtant à freiner l'étalement urbain. Ils sont généralement accessibles à pied, à vélo ou en transport en commun, un atout pour l'environnement et qui, en prime, apaise la congestion routière. À la poubelle. De plus, la démolition d'un bâtiment représente une nuisance pour la planète. À peine 25 % des déchets de construction, de rénovation et de démolition sont recyclés. Ils représentent 38 % des matières résiduelles envoyées au dépotoir au Québec. Pourquoi? Parce que la démolition d'un bâtiment se fait à l'aide de pelles mécaniques et de bulldozers. Les débris sont envoyés en vrac au centre de tri. Ils sont tamisés mécaniquement et triés pour en retirer les rares éléments de valeur ayant résisté à l'assaut. Des fenêtres, des briques, des poutres et d'autres matériaux pourraient pourtant trouver une deuxième vie si un système d'économie circulaire était mis en place dans l'industrie de la construction. C'était Les bâtiments existants comme antidote à la crise du logement. Un texte de Marco Fortier, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir.
Les gestionnaires de carrière surreprésentés au sein des CA en culture. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir. Les affaires gèrent les affaires culturelles. Les gestionnaires professionnels ont la même mise sur les conseils d'administration, CA, des sociétés d'État du Québec dans le domaine de la culture et des communications. La très grande majorité des membres, présidents et vice-présidents des CA, viennent du milieu de la gestion et du secteur privé en particulier. Sur 97 membres répertoriés par Le Devoir, 82 tombe dans cette catégorie au sens large. Même les perspectives des artistes et des créateurs n'ont quasiment pas voix au chapitre pour gérer les organismes des arts et de la culture, y compris les musées. La recension faite n'a permis de recenser qu'une poignée d'artistes professionnels parmi la centaine d'administrateurs. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ, qui distribue des bourses et des subventions aux créateurs et aux compagnies artistiques en compte le plus. 3 sur 13 membres. Un photographe, un musicien et un plasticien. On peut ajouter une architecte à la retraite. L'absence d'artistes ou de créateurs dans l'ensemble me paraît d'autant plus problématique que les CA ont le mandat d'établir des planifications stratégiques des sociétés d'État explique Tania Contoyani, présidente de l'Union des artistes UDA. L'inclusion doit commencer au conseil d'administration, où se prennent les décisions, où s'établissent les grandes orientations. Le mois dernier, l'UDA et 5 autres syndicats de professionnels de la culture ont fait une sortie publique pour dénoncer la distribution de l'argent public qui leur semble bénéficier à certains groupes industriels au détriment des artistes et des artisans qui sont au cœur de la création. Les dépenses combinées des sociétés d'État culturelles totalisent des milliards de dollars depuis le début du siècle. Rien qu'entre 2018-2019 et 2022-2023, le CALC a distribué environ 850 millions, dont 745 millions aux organismes artistiques et 105 millions en bourse aux individus. 1%, 2% ou 3%. La liste des administrateurs étudiés par Le Devoir se concentre sur 9 sociétés d'État du Québec. On y retrouve tout l'alphabet de soutien des arts et de la culture par l'État québécois, 2 centres de diffusion des arts de la scène, Place des Arts, Grand Théâtre de Québec, 3 musées, Musée d'art contemporain de Montréal, Musée national des beaux-arts du Québec, Musée de la civilisation, l'organisme de soutien aux entreprises, SODEC, et celui qui soutient les compagnies artistiques et les artistes, CALC, le Centre du patrimoine documentaire national, BANQ, et le télédiffuseur public, TQ. Beaucoup de membres de leur CA travaillent ou ont longtemps travaillé pour des entreprises privées. KPMG, Saputo, Sidley, Norton Rose, le groupe Germain, Dufresne et Gauthier, groupe Dallaire, etc. On y compte 16 avocats, souvent diplômés en droit des compagnies, 12 comptables et 7 détenteurs d'une maîtrise en administration des affaires, MBA, mais aussi 6 ingénieurs. Par contraste, on ne trouve que 7 professeurs d'université, mais là encore, dans les mêmes spécialités. Comptabilité, droit, gestion des arts. Une seule personne a été formée en littérature, une autre en géographie et une en design seulement. Là encore, ces diplômés atypiques ont bifurqué ensuite vers la gestion d'organismes publics ou privés. Le peintre Marc Séguin, d'ailleurs un des artistes visuels les plus impliqués dans les affaires avec les ateliers 33-33, s'avère le seul de la centaine de membres présents à 2 conseils, CALC et Musée d'art contemporain de Montréal, selon les listes disponibles en ligne. Depuis 2011, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État exige la parité homme-femme. Elle forme maintenant une grosse majorité des CA culturels avec 58 postes pour 39 occupés par des hommes. 5 femmes, mais 4 hommes président un conseil. Reste que, dans un genre comme dans l'autre, on parle bien d'extraction de la même matrice gestionnaire. Vous écoutez « Les gestionnaires de carrière surreprésentés au sein des CA en culture », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir. Des nuances. Que des pros de la gestion siègent au CA de la culture, rien de plus normal. Que tous les membres, ou presque, soit de cette eau utilitariste et que les artistes n'y soient pas, peu étonnés. Alors, pourquoi les CA des sociétés d'État favorisent-ils toujours le même profil professionnel en excluant les représentants des groupes communautaires, des syndicats, des contribuables ou des artistes? Le Canada a calqué le modèle américain où les musées sont des organismes privés, répond le professeur Yves Bergeron, titulaire de la chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la culture de l'UQAM. Il cite le cas type du Musée des beaux-arts de Montréal, qui n'est pas une société d'État, créature du milieu des affaires au 19e siècle et qui l'est demeurée en bonne partie. On attend des membres des CA des musées qu'ils aient des entrées dans le monde économique et financier pour que ces milieux les soutiennent, dit le professeur Bergeron. 5 autres professeurs spécialisés en gestion des organismes culturels n'ont pas répondu à la demande d'entrevue. Le Musée national des beaux-arts du Québec réplique qu'au contraire, les membres de son CA reflètent bel et bien la mixité des expériences au Québec. Les compétences de nos administrateurs couvrent un vaste éventail de la diversité socio-économique du Québec, comme la recherche, l'enseignement, le tourisme, les hautes technologies, la médecine, l'engagement social et bien plus, écrit par courriel Linda Tremblay, responsable des relations de presse du musée. Le Musée de la civilisation de Québec, MCQ, nuance aussi l'observation sur le concentré de perspective des affaires. Le CA du MCQ est diversifié, résume Anne-Sophie Demmel, relationniste de presse du musée. Elle a préparé son propre tableau d'analyse de la composition de son CA selon compétences et expériences. Sur les 11 membres, en ne comptant pas le directeur général, 6 viennent de l'économie et 4 de la culture, tous comme gestionnaires, et 1 du milieu éducatif, Nicole Obamsawin. L'explication du ministère de la Culture concernant le manque de diversité des gestionnaires renvoie au décret du 31 mai 2023 obligeant les sociétés d'État à constituer leur CA à compter de 2025 en incluant au moins un jeune de moins de 35 ans et des membres représentatifs de la diversité de la société québécoise. La règle vise précisément les Autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées. En ce moment, environ 13,5% des membres de l'ensemble des CA sont considérés comme représentatifs de la diversité telle qu'elle a été définie, mais certains CA sont encore en défaut de conformité dans ce cas, dont celui de la SODEC. Les règles imposent des normes diversitaires, égalité, diversité, inclusion, sans tenir compte de différentes catégories socio-économiques ni de la multiplicité des parcours socio-professionnels. Méthodologie. Le Québec compte 50 sociétés d'État, dont plus de 20% dans le camp culturel. Les statistiques colligées ici portent donc sur 9 de ces 11 organismes publics. Les conservatoires d'art dramatique et de musique et la Commission de la capitale nationale, soit une école et un centre de gestion urbain et patrimonial, ont été exclus des calculs qui n'incluent pas non plus les directions des organismes, le directeur de musée, par exemple, membre des CA d'office. Le Musée des beaux-arts de Montréal n'est pas une société d'État. Les membres sont officiellement nommés par le Conseil des ministres sur la recommandation du ministère de la Culture et des Communications après des consultations auprès d'organismes socio-économiques et culturels. Les mandats sont de moins de 4 ans en général. Les administrateurs sont nommés par le gouvernement et rémunérés. Un décret du 15 mars 2023 accorde 31 800 $ par année pour la présidence du CA de la SODEC et 21 200 $ pour celle du CALC, de la BANQ, des musées d'État ou de TQ. Les autres membres reçoivent 15 900 $ dans un cas et 10 600 $ dans l'autre, en plus des primes pour siéger dans des comités ou les diriger de 2 800 à 8 400 $. C'était Les gestionnaires de carrière surreprésentés au sein des CA en culture, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir.
Quelles chaussures de course choisir? Un texte de Catherine Handfield, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. Quels souliers de course privilégier? Gros ou minimaliste? Simple ou technologique? Quel amorti? Quel dénivelé? Devant l'étalage de chaussures, le consommateur s'y perd. Discussion entre deux experts, le physiothérapeute Blaise Dubois et le podiatre Gabriel Moisan. Qui sont nos experts? Blaise Dubois est physiothérapeute, ancien consultant à Athlétisme Canada et fondateur de la Clinique du coureur, un organisme de formation pour les professionnels de la santé et de l'entraînement. Gabriel Moisan est podiatre et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses champs de recherche touchent la biomécanique, les douleurs chroniques aux membres inférieurs et les modalités de traitement conservateur, dont les orthèses. Existe-t-il une recommandation universelle en matière de chaussures de course? En particulier pour les gens qui commencent la course à pied, pour ceux qui ont des douleurs aux articulations, pour ceux encore qui ont un surpoids? Blaise Dubois. Actuellement, les données probantes ne sont pas assez claires pour faire des recommandations très générales pour le grand public. Mais avec l'ensemble des données, on est capable de faire des recommandations quand même valables. Plus la chaussure est amortissante et grosse, plus elle stresse le genou, la hanche et le dos. Plus elle est amortissante et grosse, moins elle stresse le pied de façon générale. Il y a une conception générale, bien disséminée chez les vendeurs de chaussures, selon laquelle ça prend plus d'amorti pour réduire le stress sur le genou. Ça ne marche pas, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue clinique. Gabriel Moisan. C'est dur de faire des recommandations très générales parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Je suis d'accord avec ce que Blaise a dit, mais j'ajouterai une chose. Je pense que le plus important, c'est que si tu n'es pas blessé et que tu n'as pas de problème à la course, la meilleure chaussure, c'est celle que tu portes déjà. Si tu la trouves confortable, si elle te plaît, achète-en une autre paire avant que le modèle ne soit plus vendu. Blaise Dubois. Je suis d'accord, mais il y a une problématique à travers tout ça. On laisse supposer aux gens que l'amorti, les antipronateurs et le drop, le dénivelé entre le talon et l'avant-pied, les trois technologies qui ont été promues au fil des années ont un rôle préventif sur les blessures, ce qui n'est pas le cas. Mais on a réussi à le faire croire à tout le monde et le marché a réussi à imposer ces chaussures-là au public qui les achète à haut prix. Actuellement, si on n'est pas dans un public éduqué, ce sont 97 % des gens qui les portent. On a rendu des gens totalement dépendant à un profil de chaussure. Est-ce que la chaussure minimaliste fait peur aux consommateurs? Blaise Dubois. Elle fait surtout peur à tous ceux qui font la promotion de la grosse chaussure. Tous les vendeurs vont promouvoir les chaussures technologiques avec de l'amorti, parce que c'est la norme statistique depuis 40 ans. On a fait des milliers de transitions vers le minimalisme avec succès parce que les patients ont été guidés adéquatement. Mais si tu t'achètes un Five Fingers, des chaussures très minimalistes, et que tu cours 30 minutes en partant, c'est sûr que tu te blesses aux pieds. Ce n'est pas la faute du minimalisme, c'est la faute du maximalisme qui a fragilisé vos pieds pendant des années. Gabriel Moisan. La chaussure minimaliste, par définition, est moins contrôlante. À part changer un peu le matériel et la forme, il n'y a pas vraiment d'innovation possible. C'est donc plus rentable pour une entreprise de créer de nouvelles technologies qui, la plupart du temps, ne sont pas validées scientifiquement. Les entreprises poussent vraiment les chaussures technologiques, alors que ce n'est peut-être pas ce dont le patient a besoin. Comme professionnel de la santé, on se bat contre une grosse machine qui a un budget marketing illimité. Est-ce que la chaussure maximaliste provoque plus de blessures que la chaussure minimaliste? Gabriel Moisan. Ce n'est pas vraiment que l'un cause plus de douleurs que l'autre. C'est le patron qui est différent. En fonction de la chaussure qu'on porte, on peut changer la répartition des charges sur les structures du pied et de la jambe. Les chaussures minimalistes augmentent les charges au niveau du pied et du mollet, mais elles vont enlever de la charge pour tout ce qui est en haut de la cheville. À l'inverse, les chaussures maximalistes vont enlever de la charge au niveau du pied et de la cheville, mais augmenter les charges aux genoux et à la hanche. On peut se servir de ces différences à notre avantage en fonction de l'emplacement des douleurs des coureurs blessés. Lorsque le consommateur se retrouve devant l'étalage des chaussures, que doit-il vérifier? Blaise Dubois. Il est déjà dans la merde, vu qu'on ne lui proposera que des grosses chaussures. Il y a 5-10 ans, on avait au moins un petit choix de chaussures minimalistes exposées en magasin. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le mieux que tu puisses faire, c'est de choisir une belle couleur et d'essayer la chaussure pour voir si elle est confortable. C'est cynique. Où les trouve-t-on, les chaussures minimalistes? En ligne? Blaise Dubois. En ligne, oui, il y en a. Mais si tu vas dans une boutique spécialisée, le vendeur va essayer de te décourager en disant que le minimaliste est une mode passée et que des gens se sont blessés. Puis, il va faire des recommandations basées sur de mauvaises pratiques. Je vais être encore plus cynique. Je pense que tu sortiras mieux chaussé du Walmart que d'une boutique spécialisée. Gabriel Moisan. Je comprends le cynisme de Blaise et je le partage un peu. C'est vrai que c'est démoralisant quand tu essaies d'avoir l'ensemble du continuum de chaussures. Par contre, la nuance que j'apporterai est la suivante. On est habitué à porter des chaussures dans la vie de tous les jours, et une grande proportion d'entre elles sont plus contrôlantes que pas assez. Moi, j'aurais plus tendance à viser le milieu pour commencer. Un indice minimaliste de 50 %. Lorsque l'on commence à courir, quelles sont les règles de l'art pour diminuer le risque de blessure? Gabriel Moisan. Le facteur principal, ce sont les habitudes d'entraînement. Comment tu cours? Quelle distance? À quelle fréquence? La personne qui commence la course en se tapant 7-8 km, elle va se blesser, peu importe la chaussure qu'elle porte. Blaise Dubois. Je suis totalement d'accord. 80 % des blessures en course à pied sont dues à une mauvaise quantification du stress mécanique, c'est-à-dire que la personne en a fait trop, trop vite. Dans le 20 %, il y a un peu de chaussures et un peu de biomécanique. Les deux consignes qui pourraient être données à un coureur, c'est de faire des plus petits pas et de faire moins de bruit en courant. C'était « Quelles chaussures de course choisir? » Un texte de Catherine Hanfield, paru le 16 juin 2024 dans La Presse.